Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. À Hong Kong, les militants pro-démocratie veillent à donner tort à l'exécutif et participent dans le calme à une veillée reportage de Valérie Crova. Demain, signature au Soudan d'un accord possiblement historique entre les militaires et les instances civiles. Commentaire du chercheur Gérard Prunier. Et puis le coût de la vie étudiante en est hausse en France, selon l'UNEF. Précision en fin d'édition de Fiona Mogadam. Ils sont des milliers à veiller dans un parc, à prendre soin d'un mouvement que l'exécutif hongkongais s'emploie à discréditer, à criminaliser. Une veillée en amont d'un week-end dense, une marche interdite par les autorités, est en effet envisagée demain dans un quartier commerçant du nord de Hong Kong. Un rassemblement programmé dimanche au parc Victoria a été autorisé à condition de ne pas quitter le site. Quelques heures avant la veillée de ce soir, Valérie Crova, aucun débordement, rien de nature à nourrir la rhétorique officielle.
Et oui, le rassemblement de ce soir a été à l'opposé des scènes de violence vues à l'aéroport de Hong Kong mardi. Des milliers de jeunes hongkongais et moins jeunes ont écouté avec attention les différents intervenants qui se sont succédés, soit physiquement, soit par message vidéo, comme ce député du Parti travailliste britannique qui a exprimé son soutien aux manifestants. Il a même demandé que des sanctions soient prises contre des officiels de Hong Kong, dont la chef de l'exécutif, Carrie Lam, désignée par Pékin. Ce soir, les manifestants ont voulu montrer qu'ils n'étaient pas des terroristes, comme certains journaux chinois les ont dépeints. Jack est étudiant en droit à l'université de Hong Kong. Il reconnaît cependant une sorte de frustration que certains peuvent ressortir après 2 mois de contestation.
Nous essayons d'exposer notre point de vue de façon pacifique. Certains d'entre nous, nous avons essayé des méthodes plus nerveuses pour dire notre colère, mais on ne nous entend pas. Alors nous pouvons essayer de trouver pour nous faire entendre un moyen plus pacifique, comme on l'a fait aujourd'hui, mais je pense que cela ne sert à rien. Aussi, j'attends beaucoup de la manifestation de dimanche.
Et dimanche, ce sera au parc Victoria, dans le nord de l'île, où l'on attend des dizaines de milliers de personnes, sinon plus. Ce sera un nouveau test de la mobilisation qui ne faiblit pas depuis 2 mois.
Merci à vous, Valérie Crova et Jérémy Tuile à Hong Kong. C'est à la demande de la Chine d'ailleurs et du Pakistan que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni aujourd'hui pour examiner la question de l'état du Jammu et Cachemire. Unique État indien à majorité musulmane, privé de son autonomie par New Delhi le 5 août dernier. L'Inde s'est engagée à lever progressivement certaines restrictions, dont un sévère couvre-feu. En Syrie, 15 civils, dont 6 enfants tués aujourd'hui dans des raids aériens du régime et de son allié russe, sur un camp de déplacés du nord-ouest du pays. Information que l'on doit à l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les forces du maréchal libyen Khalifa Haftar bombardent 2 aéroports tenus par les troupes du gouvernement d'Union nationale dans le nord de la Libye. Ciblé, l'aéroport de Zouara, à 120 km à l'ouest de Tripoli, et celui de Mitiga, le seul aéroport fonctionnel de la capitale. 3 blessés selon un dernier bilan. Une date qui entrera peut-être dans l'histoire du Soudan et de ses 40 millions d'habitants. Demain, samedi 17 août, les militaires qui gouvernent le pays depuis 30 ans signeront officiellement un accord qui scelle le transfert du pouvoir aux civils, ou plutôt un texte qui détaille les modalités d'un partage du pouvoir, partage à reconsidérer chemin faisant. L'accord en question, péniblement conclu avec les nombreuses composantes de l'opposition au début du mois, prévoit un conseil souverain composé de 6 civils et de 5 militaires, chargé de stabiliser un processus de transition étalé sur 3 ans. Nadine Epstein a sollicité le commentaire et l'appréciation de Gérard Prunier, historien et chercheur au CNRS.
Les gens soutiennent cet effort de changement. L'armée a des armes, les civils n'en ont pas. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui a coincé, on s'est retrouvé avec des morts. Étant donné qu'il n'y a plus d'autre option, c'est la seule chose qui reste à la population.
Qu'est-ce qu'elle espère en premier lieu ?
L'extraction programmée de l'administration de la dictature qui reste encore présente dans tous les ministères. Les partis qui seront dans les ministères essaieront de faire ce qu'ils peuvent, et ensuite il faut savoir si les militaires qui prennent encore 50% du pouvoir les laisseront opérer.
Est-ce que l'opposition est elle-même unie ?
Oh, pas du tout. Il y a 27 organisations politiques ou syndicales radical. Il ne faut pas oublier qu'on sort de 30 ans de dictature. Et ça, c'est du bricolage qui date au mieux d'il y a 5 ou 6 ans. L'armée demeure la seule force. Et ça n'est pas l'armée nationale, c'est une armée de mercenaires. Recrutés dans 6 ou 7 pays différents, ce ne sont pas des gens qui sont dans une structure organisationnelle dépendant du ministère de la Défense. Et ce sont eux qui tiennent les rênes du pouvoir, de manière militaire.
Et ça, les nouvelles structures ne vont pas pallier ça ?
Il n'y a rien de prévu à cet effet.
Autre point, le sort d'Omar al-Béchir qui comparaît devant la justice soudanaise.
Aujourd'hui, c'est un épiphénomène. Il n'y aura pas d'extradition. Parce que même de la part des civils, c'est une question d'honneur national. Et ça serait donner trop de moyens pour se faire battre par les militaires. Même si beaucoup de civils eux-mêmes seraient d'accord pour une extradition, elle ne sera probablement pas votée.
Gérard Prunier, historien et chercheur au CNRS avec Nadine Epstein. Des dizaines d'habitants d'Araré, quadrillés par les forces de l'ordre, ont été dispersés par la police anti-émeute à coups de gaz lacrymogène. Ces sympathisants de l'opposition qui avaient bravé l'interdiction de manifester s'étaient donné du courage en entonnant des chants condamnant ces brutalités policières. Le Zimbabwe va de pénurie, en denrées de première nécessité, un pays au bord du gouffre, plus de 500% d'inflation. Un tiers des 16 millions de Zimbabwéens ont besoin d'une aide alimentaire. 26e vendredi de manifestation en Algérie, le Irak, le mouvement de contestation est toujours aussi massif. Un slogan parmi bien d'autres, unis, on fera partir le gang, puis Gaïd. Le gang, c'est le pouvoir, et Gaïd pour Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major de l'armée. Ce sont les chiffres de la préfecture maritime de la Manche. 1276 migrants ont été sauvés en mer depuis le début de l'année 2019 lors de traversées du Channel, la plupart du temps sur des petites et frêles embarcations. Alors les autorités britanniques, comme les ONG d'ailleurs, tentent une fois de plus de ne plus avoir affaire à de telles statistiques. C'est une correspondance de Londres de Marina Daras.
Les autorités britanniques et les associations venant en aide aux migrants redoublent d'efforts pour dissuader les migrants de traverser la Manche dans des canots de fortune. La semaine dernière, une jeune Iranienne est tombée en mer alors qu'elle tentait une traversée sur un canot gonflable avec à son bord 19 autres personnes, dont 4 enfants, tous originaires d'Iran et d'Irak. Une opération de secours impliquant la France, le Royaume-Uni et la Belgique avait été lancée et des hélicoptères de la garde côtière ont été mobilisés pour tenter de retrouver la jeune femme désormais portée disparue. Quelques heures auparavant, les gardes côtiers avaient intercepté 4 petits bateaux, dont un kayak, avec 30 personnes à son bord qui tentaient de traverser la Manche. Le niveau d'alerte avait été relevé en décembre dernier après une hausse des tentatives de traversée de la Manche. Un plan d'action avait été mis en place entre le Royaume-Uni et la France pour augmenter la surveillance des plages et des ports. Du côté britannique, 3 hélicoptères de la force frontalière et 2 patrouilleurs surveillent la côte. Mais pour les ONG, ce sont les politiques frontalières toujours plus violentes qui poussent les migrants à emprunter cette voie meurtrière pour atteindre le Royaume-Uni. En moins d'un an, près de 1200 migrants ont risqué leur vie en tentant de traverser l'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde dans des bateaux de fortune.
Marina Daras à Londres. De plus en plus coûteux, le financement des études supérieures en France. Le syndicat étudiant l'UNEF a rendu public aujourd'hui ses derniers relevés. Plus 2,83% d'augmentation comparé à l'année dernière avec Fiona Mogadam, un gros chèque pour le logement.
Se loger est chaque année un peu plus onéreux pour les étudiants. La ville la plus touchée en 2019 par la hausse des tarifs selon l'UNEF, c'est Bordeaux avec une augmentation de 11%, suivie d'Évry dans l'Essonne, plus 7%. À Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, les prix gonflent de 5%. C'est pour cette raison qu'Imane, étudiante en deuxième année de sciences du langage à Nanterre, a dû se loger bien loin de son université.
La seule chose que j'ai réussi à trouver, c'est une colocation plus au nord de l'Île-de-France, donc vers l'aéroport. Du coup, à une heure de transport de l'université.
Puis il y a les coûts des transports, de l'alimentation, des dépenses de santé et pour les femmes, des frais supplémentaires. Les étudiantes dépensent en moyenne 529 euros de plus par an que les étudiants, Imane confirme.
En tant que femme et étudiante, la précarité menstruelle, je la vois tous les mois parce que c'est quand même un budget de s'acheter des protections périodiques. Quand je dois ajouter presque des fois 15 euros de frais juste pour les règles, alors qu'en fait, je pourrais faire limite un panier de courses pour me nourrir dans le mois.
Et dans le budget de la jeune femme, chaque euro compte. Le salaire qu'elle touche en travaillant à temps partiel dans un fast-food couvre à peine son loyer. Travailler pour payer ses études, c'est le cas d'un étudiant sur deux, d'après l'UNEF, qui réclame une réforme profonde des aides sociales pour les étudiants. Mélanie Luce, sa présidente.
avec une augmentation des bourses, une augmentation du nombre de boursiers. Ça doit s'accompagner de mesures comme l'encadrement des loyers, comme la généralisation des demi-tarifs étudiants dans les transports en commun.
Pour les étudiants, l'UNEF demande la distribution gratuite de protection périodique à l'université, comme c'est déjà le cas à Lille.
Fiona Mogadam, quelques mots de la météo de demain. Grisaille à l'ouest en début de journée, de la pluie au nord du pays. L'après-midi, soleil généreux sur les deux tiers sud du pays. Température minimale comprise entre 10 et 21 degrés. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau à la technique, Pierrick Monsigny.